Merci pour toutes ces très bonnes nouvelles qui vont de l'école des études à Shanghai et qui reviennent ensuite à Aubervilliers avec ce forum, sécurité et prévention finalement.
Le futur de la prévention.
Le futur de la prévention, je crois que c'est un très beau titre. Merci aussi à Jacques Ralite pour la bonne nouvelle concernant les barbares. Les barbares. Alors, est-ce une si bonne nouvelle? Toute la question est là. Parce qu'au fond, la mondialisation, c'est un peu ça qui se passe. Les communautés nationales, elles se sont faites unies contre les barbares. Et la communauté mondiale, qui est à l'horizon de cette mondialisation dont on parle beaucoup et dont je vais vous parler un peu, c'est une communauté sans extérieur, sans dehors, sans ennemis, sans barbares. Et comment faire une communauté sans barbares? C'est pas si simple que ça. Ces gens-là, en quelque sorte, nous étaient bien utiles. Alors, bien sûr, s'il y avait des Martiens, ça faciliterait les choses. Mais à défaut de Martiens connus jusqu'à présent, comment constituer une communauté sans barbares dehors? Le risque, et c'est là qu'on retrouve le problème du monde dangereux, de la peur, d'une conception de la sécurité basée sur la peur et pas sur la prévention, le contraire de ce que vous allez faire. Le risque, c'est de dire, mais finalement, les barbares sont dedans. Chacun est le barbare de l'autre. Donc, il y a une vraie inquiétude devant la création, l'émergence. Ce n'est pas une création voulue par quelqu'un, c'est une émergence d'une communauté sans barbares. Là, vous touchez à un problème majeur de la mondialisation. Et je trouve que le poème que vous avez cité est une très belle illustration de une certaine angoisse, parce que finalement, cette mondialisation, la dernière, celle dont nous allons parler, c'est celle qui commence après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où on découvre que la barbarie, c'est pas seulement les autres, mais c'est nous aussi. Il faut lire le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, considérant les actes de barbarie qui ont été commis par les peuples qu'on appelait civilisés jusque-là. On n'ose plus employer l'expression de peuple civilisé. Donc on est à un moment extrêmement difficile et je crois que c'est pour moi une heureuse occasion d'essayer de clarifier un petit peu ma propre vision sur le thème qui était votre thème principal cette année, travail et mondialisation. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur droit de l'homme et droit du commerce, mais travail à l'épreuve de la mondialisation, pour moi, c'était un peu une exploration de quelque chose de nouveau. Alors j'ai voulu repartir du sous-titre que vous avez donné, le travail, expression de l'être humain. Avec peut-être une petite nuance, c'est que l'expression est plus ou moins heureuse selon les conditions de travail. Mais en effet, on peut dire que le travail est essentiel à l'être humain. Et j'ai repris une formule de l'ancien commissaire au plan Jean-Baptiste de Foucault qui disait: si le travail ne règle pas tout, le chômage, lui, dérègle tout. Le chômage, l'absence de travail, conduit aux exclusions sociales. Mais alors pourquoi parler d'épreuves de la mondialisation? Après tout, la mondialisation, c'est un mouvement continu de l'humanité. Notre collègue Yves Coppens considère que dès qu'il a été doté de la conscience, du langage et de l'outil, l'homme s'est mis en marche, sans doute il y a 3 millions d'années. Et il ajoute: je suis convaincu qu'il a bougé très vite au-delà des limites de son habitat et ne s'est sans doute jamais arrêté. Qui est en même temps une réponse à ceux qui veulent dresser des murs face aux migrations internationales. Mais ce n'est pas de cette mondialisation-là qui commence il y a 3 millions d'années, nous allons parler. C'est l'actuelle mondialisation, celle qui commence donc par cette réaction à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, celle qui commence dans la deuxième partie du XXe siècle. Et cette mondialisation-là, elle apporte une double révolution, à la fois juridique et économique. Du point de vue juridique, nous étions habitués à considérer que le droit s'identifiait à l'État. Chaque État avait ses codes, ses lois, ses systèmes de justice, ses juges. Or, à partir de ce lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on voit apparaître un droit au-delà de l'État, au-dessus de l'État, un droit qui n'est plus interétatique, international, mais supranational ou transnational. En soi, c'est quelque chose de complètement nouveau et de très déconcertant, pour les juristes en tout cas. Et puis, il y a la révolution économique, un marché qui se mondialise, les flux de marchandises, les flux de capitaux, les flux de services qui sont globalisés. Et on peut penser dans un premier temps que ce marché mondialisé, ben, c'est un progrès. On nous explique qu'il crée des emplois, qu'il accroît la prospérité. On nous donne des statistiques, ce qu'on appelle la pauvreté monétaire, moins d'un dollar et demi par jour, a reculé, paraît-il, de quelques points. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a maintenant une déclaration des droits de l'homme qui se dit à vocation universelle. C'est la déclaration de 1948. Donc cette mondialisation, elle paraît quelque chose comme une grande avancée, quelque chose qui va améliorer la vie quotidienne. Mais quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de paradoxes. Il y a d'abord ce paradoxe de la prospérité elle-même. Peut-être que la pauvreté monétaire a diminué, mais les écarts, les inégalités n'ont fait qu'augmenter. Les inégalités entre les plus favorisés et les moins favorisés, à la fois entre les pays et à l'intérieur d'un pays, entre les membres de la population, ont considérablement augmenté. La société moderne fait courir à beaucoup un risque d'exclusion parce que le lien social est moins stable, il est moins protecteur. Et cette déstabilisation contamine le monde du travail, le nombre de chômeurs, la précarité, la baisse des revenus, le surendettement. Bref, le mal-être au travail s'étend. Alors, cette idée de mal-être au travail, elle n'est pas nouvelle en soi. Je pense à la très belle analyse que faisait la philosophe Simone Veil. Alors, Simone Veil, petite précision, il ne s'agit pas de la ministre que chacun connaît, il s'agit de la philosophe qui est morte en 1943. Elle est morte jeune, elle est morte à 34 ans. Elle avait cette particularité tout à fait singulière d'être à la fois philosophe et d'avoir voulu vivre à l'usine, vivre comme un ouvrier, la vie de l'ouvrier, non pas pour aller enseigner quoi que ce soit, la philosophie dans les usines, ce n'était pas son problème, mais pour comprendre le vécu quotidien du travail en usine. Et ce qu'elle dit de la déshumanisation du travail dans l'univers industriel est tout à fait frappant. Alors, ce qui m'a le plus frappé dans les textes de Simone Veil sur son expérience à l'usine, c'est ce qu'elle dit sur la relation au temps, c'est-à-dire la disparition du rythme qui suit le rythme du corps au profit de la cadence qui suit la cadence de la machine et qui ne permet pas la respiration que permet le rythme du corps. Alors, c'est intéressant parce qu'elle rappelle, elle était poète en même temps que philosophe, et elle rappelle le lien entre le travail et le chant, qui n'est plus concevable à l'heure actuelle. Mais cela dit, ce malaise, ce mal-être dont elle parlait il y a longtemps déjà, on peut se demander s'il n'est pas en train de s'étendre à tous. Et on voit depuis quelque temps beaucoup d'articles de presse sur les suicides, sur les troubles mentaux, y compris chez les cadres, y compris chez les ingénieurs. Il y a tout récemment, la cour d'appel de Versailles a condamné Renault, notre grande société Renault, pour faute inexcusable. Et les juges de Versailles ont motivé leur condamnation en disant « le culte de la performance conduit à piétiner les hommes ». Et ça, je crois que c'est un avertissement très fort. Le culte de la performance contribue à piétiner les hommes. Mais les hommes, ils sont piétinés aussi par un autre paradoxe de la mondialisation actuelle, j'appellerais le paradoxe des frontières. Car on ouvre largement les frontières aux marchandises, on les ouvre aux capitaux, on les ouvre aux services, à la fois en Europe et au-delà de l'Europe, à l'échelle mondiale. Mais quand il s'agit des hommes, alors là, on referme. On referme les frontières, et non seulement on referme les frontières, mais on fabrique des murs, on fabrique des barrières, on fabrique des barbelés, symboliques ou réels. Il n'y a jamais eu autant de construction de murs que depuis la mondialisation. Donc ça, c'est un paradoxe qui contribue à faire que le travail, ceux qui viennent pour chercher du travail, sont rejetés. Et ça, c'est un paradoxe qui conduit à ces deux questions que je voudrais explorer avec vous, que j'ai explorées pour venir vous en parler et que je voudrais explorer maintenant avec vous. C'est pourquoi y a-t-il cette discordance entre le travail et la mondialisation? Et puis, comme je n'aime pas terminer un exposé sur quelque chose de trop sombre, c'est pour ça que j'aime tant Vera da Silva, parce que dans ses tableaux, il y a toujours, je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais il y a toujours une petite lumière, une petite fenêtre quelque part, souvent petite, mais elle existe et il y a toujours une lumière. C'est ce qu'elle a appelé dans un de ses tableaux l'issue lumineuse. Alors, voulant suivre l'exemple de Vera da Silva, je voudrais poser après une deuxième question, c'est comment réconcilier ou comment concilier, parce qu'ils n'ont peut-être jamais été vraiment conciliés, comment concilier le travail et la mondialisation. Donc on essaiera de terminer sur une petite lumière. Mais d'abord, pourquoi cette discordance entre travail et mondialisation? En fait, l'histoire de la relation avait plutôt bien commencé, car la première organisation internationale à vocation mondiale, qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, elle a été créée en 1919 dans le champ du travail. En 1919, le traité de Versailles disait très clairement « Une paix durable, et c'est ce que nous cherchons encore maintenant, ne peut être établie que sur la base de la justice sociale ». Donc la première organisation à vocation mondiale, c'est l'Organisation internationale du travail, et c'est de loin la plus ancienne. Elle a réussi à échapper au naufrage de la Société des Nations, à laquelle elle était liée institutionnellement, et elle a en plus une chance pour elle, c'est que c'est une organisation dans laquelle les différentes parties sont représentées. Il y a des représentants des gouvernements, mais il y a aussi des représentants des employeurs et des travailleurs. Ce qui devait rendre cette organisation tout à fait prête à l'objectif de reconstruction annoncé par le président Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, dès 1944, les Alliés adoptent la déclaration de Philadelphie qui revient encore sur l'importance de la justice sociale et dont le préambule contient cette phrase qu'il n'est pas mauvais de rappeler de temps en temps ou d'écrire au fronton de certains édifices, « Le travail n'est pas une marchandise ». Premier dispositif de 1944. Et puis, les choses ont l'air de continuer de façon favorable à la protection des travailleurs avec la Déclaration universelle de 1948. Elle interdit le travail forcé, elle interdit l'esclavage, elle énonce un certain nombre de droits, sécurité sociale, travail, emploi. Tout cela se trouve dans le texte de 1948 et est repris dans le pacte de 1966 sur les droits économiques et sociaux. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Dans les années 80, c'est la fin de la guerre froide. 1989, la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne. Et là, on va voir la mondialisation basculer vers le marché. Il y a un basculement vers le marché. Je pense que la cause profonde est politique. Il y a un triomphe du libéralisme, une ouverture des frontières aux flux de marchandises, aux flux financiers. Alors ça permet beaucoup de choses, ça permet des investissements, mais ça entraîne, comme prix à payer, une prépondérance du système financier, une prépondérance des intérêts des actionnaires. Alors les actionnaires, ce sont des investisseurs, mais ce sont aussi souvent des spéculateurs dont les intérêts sont à court terme, qui priment les intérêts de l'entreprise comme œuvre collective, comme œuvre durable. Et c'est ça qui nous institue ce culte de la performance dont on vient de découvrir les conséquences désastreuses. Mais en même temps, ce qui est troublant, c'est que la mondialisation, avec cette montée en puissance du marché, la mondialisation devient dissymétrique. Elle devient dissymétrique parce que le marché se mondialise plus vite que la protection sociale. Du point de vue économique, on arrive à une absurdité, c'est que le marché, il est supposé avoir deux fonctions, la circulation des marchandises et la redistribution des ressources. Alors la circulation est mondiale ou mondialisée, la redistribution, elle reste au niveau national, quelquefois régional, mais la plupart du temps au niveau national, les droits sociaux, le droit du travail, la sécurité sociale, la lutte contre la pauvreté et le chômage, tout ça reste au niveau national. C'est absurde du point de vue économique. Mais c'est injuste aussi du point de vue juridique. Parce que du point de vue juridique, cette organisation qui avait été créée en 1919, l'Organisation du Travail, eh bien, elle n'aura pas de juge pour juger la violation des principes qu'elle impose. Elle impose des principes, mais si les États les transgressent, il n'y a pas de juge. De même, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on en discute à l'époque, mais sans arriver à un résultat, on ne crée pas une Cour mondiale des droits de l'homme. Alors que la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui est tardive, qui est 1994, va s'accompagner immédiatement, simultanément, de la création d'un juge du commerce. Donc on n'a pas de juge pour le droit du travail, on n'a pas de juge pour les droits de l'homme, au niveau mondial, mais on protège par des moyens puissants la liberté du commerce, on a un juge du commerce, on a un juge auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le problème qui, tel que je le vois apparaître, c'est qu'en séparant les droits du marché des droits sociaux, en fait, on privilégie l'esprit de concurrence sur l'esprit de solidarité, ou si vous voulez, l'esprit de compétition sur l'esprit de partage. Alors que pour créer une véritable communauté, on a besoin des deux. On a besoin de la concurrence et de la compétition, mais on a besoin de la solidarité et du partage pour chercher ensemble un bien commun. Ce qui fait que, là je vous parle en juriste, puisque c'est la chose que je sais faire, c'est là où j'ai un tout petit peu de compétences. La cause profonde est sans doute politique, les manifestations les plus visibles sont économiques et financières, mais je pense, et ça on le sait moins, on le voit moins, que la discordance entre la mondialisation et le travail, elle est durablement inscrite dans les dispositifs juridiques, parce que l'ordre juridique mondial est perturbé durablement par ces différences de vitesse, ce que j'ai appelé dans un de mes livres la dyschronie. On a des ensembles normatifs, commerce d'un côté, droits sociaux de l'autre, qui fonctionnent à des vitesses différentes. La mondialisation est accélérée pour le droit du commerce. C'est un peu l'Organisation mondiale, c'est un peu le TGV en la matière. Et puis, le droit du travail, c'est une mondialisation très lente pour tout ce qui concerne la relation des travailleurs avec le patron, le droit d'avoir un travail, tout simplement, et les droits sociaux en général. Alors, pour ce qui est du droit du commerce, les choses vont très, très vite. La mondialisation, l'accélération remonte à ce qu'on appelle l'accord de Marrakech en 1994, qui crée l'Organisation mondiale du commerce. Et quand on lit le préambule, on est un peu abasourdi parce que les êtres humains ont quasiment disparu. On ne parle plus que d'accroissement de la production, du commerce de marchandises et de services. On valorise un niveau élevé et toujours croissant du revenu et de la demande. L'objectif, c'est l'échange des marchandises. On ne parle plus des hommes. Or, cet objectif, il a été très vite atteint, précisément parce que le système était efficace, étant doté d'un contrôle judiciaire, non seulement interétatique, mais supraétatique. L'organe de règlement des différends peut autoriser un État à utiliser des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'il peut sanctionner. Il peut sanctionner un État. Et tout récemment, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui est un Français, M. Lamy, a évoqué l'urgence qu'il y avait à rééquilibrer le système commercial en faveur des plus pauvres. Et il a ajouté, encore plus récemment dans un article qu'il vient de publier, si vous me posez la question de savoir si l'univers marchand construit le bien-être de la société, je vous répondrai que la réponse est probablement négative. C'est terrible d'entendre le directeur général de l'OMC tenir un propos aussi négatif. Et pour être un peu plus concret dans l'analyse, je dirais qu'il y a deux effets pervers de cette accélération de la mondialisation du commerce. C'est la déstructuration des marchés locaux. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a eu un effondrement des marchés du coton dû aux exportations subventionnées en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Ça a été le déclin des prix après 1997. Donc, une déstructuration non seulement des marchés, mais de toute la population. D'une certaine manière, je dirais que cette mondialisation-là, elle fabrique des migrations. On prétend lutter contre les migrations d'un côté, mais de l'autre côté, on les fabrique. La baisse des prix a entraîné des pertes de revenus pour les cultivateurs, une paupérisation, une réduction des budgets d'État et une émigration vers l'Europe depuis les zones de monoculture du coton. Alors, le Brésil a connu le même problème, mais le Brésil est un pays qui a déjà des moyens plus importants. C'est un pays émergent. Et le Brésil a fait un recours contre les États-Unis. Il a gagné son recours. Donc, il y a peut-être une petite ouverture. Le Brésil a gagné son recours. Il y a eu un accord tout récemment, en 2010. Mais en revanche, les pays d'Afrique, pour le moment, hésitent à s'engager dans une action en justice, vu le coût, le temps, les moyens que cela suppose. Donc, il y a une déstructuration qui fragilise une partie de la population et qui contribue à l'autre effet pervers, qui est la tentation pour les trafiquants, je dirais sans scrupules, d'exploiter la vulnérabilité en faisant miroiter la possibilité de conditions meilleures. Autrement dit, il y a un deuxième effet pervers qui est l'exploitation de la vulnérabilité d'une partie de la population par les trafics, par les réseaux de travail clandestins. L'OIT, l'Organisation du Travail, estime à 32 milliards de dollars le total des profits illicites produits en un an par les travailleurs forcés qui ont fait l'objet d'un trafic. Donc, c'est extrêmement lucratif. Et la moitié de ces profits est générée chez nous, dans les pays industrialisés. Donc, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi que cette accélération de la mondialisation du commerce a été attisée d'une certaine manière, a été renforcée par la position prise par les institutions financières comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Ce sont des organisations qui ont pris l'habitude de faire une évaluation des systèmes nationaux et de donner des recommandations à l'intention des États. Ce sont des rapports qui sont publiés tous les ans depuis 1994 qui s'appellent « Doing business », faire des affaires. Et en effet, quand on lit ces rapports, c'est un peu consternant parce que l'objectif, c'est uniquement de favoriser le commerce, de favoriser la fluidité des capitaux, des marchandises. Le travail apparaît comme une entrave. Le travail, c'est une rigidité, c'est un coût. Ce sont des difficultés. Et les premiers rapports des années 95-96 vont jusqu'à donner des points de pénalité aux États qui reconnaissent trop de droits aux salariés. On peut citer le rapport de 96 dans lequel un salaire de 20 dollars par mois était considéré comme trop élevé pour tel ou tel pays africain. 20 dollars par mois. C'est pas bien, c'est trop. Vous ne pouvez pas vous payer ce luxe. Vous ne pouvez pas payer les travailleurs à ce taux-là. Mais autre exemple, une limitation à 66 heures, la durée du travail 70 heures par semaine, considéré comme trop laxiste, on ne peut pas se payer ce luxe. Et puis toute une série de dispositifs comme les préavis de licenciement ou les programmes contre la discrimination sont considérés comme des mauvais points. Alors là encore, les choses ont un peu évolué. Je pense que la crise de 2008 y a été certainement une des raisons. On a créé un groupe de travail en 2009 entre l'organisation du travail et celle du commerce pour essayer quand même de reconsidérer les indicateurs. C'était d'autant plus urgent que la mondialisation, de son côté, du côté des droits sociaux, avait peu progressé. Et là, j'ai vraiment ce phénomène de dyschronie, accélération d'un côté, lenteur de l'autre. Cette organisation du travail qui avait une longueur d'avance, elle va vite être oubliée au profit d'une politique de désengagement des États. C'est-à-dire que l'OIT continue à adopter des instruments, il y a plus de 200 conventions qui sont adoptées, mais les États ne ratifient de moins en moins. Les États ratifient de moins en moins, 90 à 95% des États, à partir des années 80, ne ratifient plus. Et puis les États qui sont supposés faire un rapport annuel à l'organisation ne font pas le rapport ou le font de façon incomplète, on passe de 90% à 60% de rapports. Mais le moment vraiment, et c'est pour ça que je pense qu'il faut raisonner en termes de vitesse, de propagation, de la mondialisation d'un côté et de l'autre. Le moment clé, c'est la création de l'Organisation du commerce en 1994. Là, il y a un véritable blocage. C'est la conférence de Singapour. Les représentants des États refusent la présence des représentants du Bureau international du travail. Alors, il y avait un refus qui venaient en partie, mais on peut les comprendre, des pays en développement qui craignaient qu'on leur impose des normes qui étaient prématurées pour eux, qu'on uniformise sur le modèle des pays développés. Mais en réalité, c'était une manière de bloquer la coordination potentielle entre le commerce et les droits sociaux. Alors, l'organisation du travail va changer de stratégie. Et j'essaye toujours de voir ce qui repart dans un sens plus positif. Elle va adopter une grande déclaration en 1998 sur les principes et droits fondamentaux du travail, où on demande aux États de se concentrer sur un petit groupe de quatre catégories de droits absolument essentiels. On va limiter les engagements pour mieux les rendre respectables et acceptables. Alors, on se concentre sur la liberté de négociation collective, on se concentre sur l'élimination du travail forcé, l'abolition du travail des enfants et l'élimination des discriminations. Et cette déclaration de 1998, non obligatoire et dépourvue de sanctions, a débloqué un peu la situation. Beaucoup de pays sont revenus à la ratification des conventions de l'OMC. Alors, bien sûr, dans la pratique, il ne suffit pas qu'un pays ratifie une convention pour qu'il l'applique, ça peut lui servir d'alibi. Mais j'ai regardé d'un peu plus près, vous parliez de Shanghai tout à l'heure, monsieur le maire, j'ai regardé d'un peu plus près ce qui se passait en Chine. Et en Chine, au fond, on a les deux possibilités. Ça illustre très bien les deux effets possibles de ce type de déclaration. En ce qui concerne l'action syndicale, la déclaration de l'OIT n'a pas beaucoup amélioré la situation. En réalité, la protection contre les licenciements, les révocations des cadres syndicaux est restée faible. Et la protection du droit de grève et de négociation collective est restée faible aussi. Il faut dire que les Chinois utilisent dans ces domaines un concept qui est inscrit dans l'histoire culturelle de la Chine, qui est le concept d'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas la contradiction, ce n'est pas la revendication, c'est quelque chose qui doit rester stable et en quelque sorte un peu fermé. Donc du côté des droits syndicaux, les choses n'ont pas été très améliorées. Mais en revanche, sur le travail forcé, la déclaration de l'OIT a fait considérablement évoluer les pratiques chinoises. Donc il ne faut pas être manichéen, ce n'est pas un instrument qui va tout débloquer à lui seul, mais qui peut introduire un petit progrès. Et puis le progrès a suivi peu de temps après avec la notion de travail décent, Et ça, ça rejoint le thème qui est cher à Jacques Ralit de la dignité humaine. En introduisant la notion de travail décent, au fond, on fait le lien entre les droits de l'homme et les droits du travail. Il y a derrière la traduction juridique d'une idée simple, c'est que toute société a besoin de coopération autant que de compétition. Et pour cela, il faut introduire la dignité humaine dans les conditions de travail. Alors, ce thème a été repris en 2008 par une déclaration de la Conférence internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Désormais est amorcé peut-être quelque chose qui nous ouvre sur un avenir un peu moins noir, qui est une stratégie, j'appellerais, interinstitutionnelle. L'OIT n'est plus isolée. L'OIT travaille avec les autres organisations. L'OIT travaille avec l'Organisation du commerce, ils ont produit un rapport sur commerce et emploi en 2007. L'OIT travaille avec la Banque mondiale, comme je vous le disais, ils revoient leurs indicateurs depuis 2009 et il était temps de le faire. L'OIT travaille avec l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir les objectifs nécessaires aux droits de l'homme au travail. Et même avec le Fonds monétaire international, il y a un texte qui vient de paraître, qui est destiné à être discuté par les chefs d'État à l'automne prochain pour établir les conditions des perspectives de l'emploi au lendemain de la crise financière. Il est possible que la crise financière ait débloqué quelque chose du bon usage des crises. En tout cas, on voit ainsi qu'il y a des voies possibles pour rééquilibrer travail et mondialisation. Et là, c'est la petite fenêtre que je voudrais ouvrir à l'horizon de ce tableau un peu noir que je viens de faire. Comment concilier ou réconcilier travail et mondialisation? Alors, je dirais tout de suite, on peut penser à plusieurs solutions. On peut penser à un rééquilibrage au niveau européen, qui est une solution, à mon avis, incomplète. Elle n'est pas à rejeter totalement, mais elle n'est pas suffisante. On peut penser, démondialisons le monde, comme proposent certains dans leur programme, revenons au seul niveau national et compensons les dégâts par une réponse purement nationale. Je crois que c'est impossible. Je crois que les États sont nécessaires, mais ils ne seront pas suffisants pour redresser la barre. Alors, la solution d'avenir, c'est peut-être d'articuler les trois niveaux et de synchroniser l'évolution au niveau mondial. Au fond, la mondialisation, c'est le problème, mais ça peut devenir peut-être aussi la solution, si on sait s'en servir, si on apprend à s'en servir. Alors, quelques mots sur ces trois pistes pour les explorer ensemble. Effectivement, la première idée qu'on peut avoir, c'est de rééquilibrer les choses en passant par l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Mais parce que l'Europe, il faut quand même le dire, le reconnaître, l'Europe, elle a deux pôles. Il y a deux Europes, en réalité. Il y a l'Europe de l'Union européenne, qui est née du marché commun, donc l'Europe du marché européen, avec une cour qui siège à Luxembourg. Et puis, il y a l'Europe des droits de l'homme, la grande Europe, l'Europe du Conseil de l'Europe, dont on oublie facilement qu'elle englobe la Russie et qu'elle englobe la Turquie. Quand on discute sur la question de savoir si la Turquie fait partie de l'Europe, on oublie qu'elle est déjà dans le Conseil de l'Europe et qu'un juge turc siège à Strasbourg dans la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a deux Europes, il y a un pôle droits de l'homme et un pôle marché, ce qui pourrait aider à rééquilibrer les choses. Le problème, c'est que, là encore, c'est une affaire de vitesse. Le pôle des droits de l'homme s'est développé plus lentement que le pôle du marché. Le pôle des droits de l'homme, en matière de droit du travail et de droit au travail, il a mis du temps à se mettre en place au niveau judiciaire, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'était pas compétente pour les droits économiques et sociaux. Elle était compétente pour les grandes libertés civiles et politiques. Il a fallu que la jurisprudence soit un peu imaginative, à partir de la fin des années 80, pour qu'on commence à faire entrer les droits de l'homme dans le travail des juges européens. Et puis, il a fallu aussi que la Charte sociale européenne organise un système de réclamation collective. Depuis peu, depuis 1998, ce système existe. Et la France, par exemple, tout récemment, dans un domaine qui est cher à Jacques Ralite, qui est le droit au logement, ça fait partie des droits sociaux, a pu être condamnée sur un recours formé par un groupe d'associations autour d'ATD Quart-Monde. Donc il y a des instruments qui se mettent en place du côté des droits de l'homme, mais de façon assez lente. En revanche, l'Europe du marché, elle s'est durcie. Elle s'est durcie. Quand je dis durcie, c'est qu'au départ, la communauté économique européenne s'était donnée comme objectif de faire à la fois un marché commun et une Europe sociale. C'était inscrit dans le traité de Rome, dans le traité fondateur. Et c'est une différence de départ avec d'autres communautés économiques, comme le grand marché nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui, lui, n'a jamais parlé de construction sociale. Donc nous avions l'idée de faire une construction sociale. Nous avons un texte européen en 2000, qui est maintenant inscrit dans le traité de Lisbonne de 2007, qui est la Charte des droits fondamentaux. C'est un texte qui constitue, on l'a très peu dit au moment des discussions sur l'Europe, et je crois que ça mérite qu'on s'y arrête un instant, cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est le premier texte qui ne sépare pas les droits civils et politiques des droits économiques, sociaux et culturels. Il divise les droits en catégories transversales. La dignité, les libertés, y compris les libertés dans le domaine du travail, l'égalité, la solidarité, qui devient un chapitre à part entière, la citoyenneté et la justice. Donc là, on a de nouveau un élément qui devrait renforcer la structure droits de l'homme. Et puis, il y a eu l'adhésion des anciens pays communistes de l'Est. Et là, ça a été une occasion manquée, parce qu'en fait, c'était une occasion historique de fonder définitivement l'Union européenne, avec l'ouverture à l'Est, sur la solidarité des peuples. C'était l'occasion de donner un nouveau souffle au modèle social. Et l'Europe aurait pu, je pense à l'ouverture qui a eu lieu entre 2004 et 2007, l'Europe aurait pu devenir un laboratoire de la solidarité. Mais ce que mon collègue Alain Supiot a appelé les noces du communisme et du capitalisme n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu parce qu'au contraire, les dirigeants des nouveaux pays membres, peu sensibles à l'esprit de Philadelphie et peu sensibles à l'idée d'une démocratie participative, se sont ralliés en fait au credo libéral ou ultralibéral. Ce qui fait qu'à l'État total, on a substitué tout simplement le marché total, le totalitarisme du marché. En témoigne l'évolution des juges européens. Les juges européens, à partir de 2007, prennent des positions assez étonnantes. Ils vont jusqu'à affaiblir le droit du travail, remettre en cause le droit de grève sans le dire ouvertement, mais au nom de la compétitivité, ils font prédominer la liberté d'établissement sur les droits sociaux. Il y a des affaires qui sont citées par les juristes, je ne vais pas entrer dans les détails, dans des affaires comme le détachement des travailleurs à l'intérieur de la communauté ou les délocalisations que les juges de Luxembourg, l'Europe du marché, considèrent comme une occasion de faire prédominer la liberté d'établissement sur les droits sociaux, c'est-à-dire que on aboutit par cette jurisprudence à mettre en concurrence sur un marché des droits les législations sociales et fiscales des États membres. C'est le moins-disant social qui gagne en quelque sorte. C'est une jurisprudence qui favorise le moins-disant social. C'est aussi une jurisprudence qui réduit la marge de manœuvre des États. En somme, et c'est pourquoi la solution ne peut pas être européenne, l'Europe contribue à l'effacement des frontières du commerce qui fait des systèmes de droits nationaux, des produits législatifs en compétition sur un marché des normes. Et en ce sens, l'Europe favorise le passage d'un État social à un État marchand. C'est pour ça qu'on ne peut pas compenser les choses au seul niveau national. Au seul niveau national, on a rêvé d'un État social à certaines époques, le préambule de 1946, la Constitution de 1946 était extrêmement développée sur le droit d'obtenir un emploi, sur le devoir de travailler. On a par la suite essayé en France, il n'y a pas si longtemps, en 1998, de faire une loi de lutte contre les exclusions, la loi d'orientation contre les exclusions, garantir à tous les droits de tous, y compris le fameux droit au logement dont on parlait tout à l'heure, mais y compris aussi le droit à l'emploi. Mais malgré la volonté politique affichée, malgré la prospérité économique, je dirais jusqu'à la crise au moins, l'État social s'est transformé en État marchand à partir de ce marché des droits qui est instauré dans la logique du commerce. C'est un effet direct de la mondialisation. On met en concurrence les systèmes de droits et le résultat, c'est le moins-disant social. Au lieu de protéger les travailleurs, on attise la concurrence entre travailleurs. Ils viennent en compétition l'un par rapport à l'autre. L'entreprise devient elle-même un bien en circulation sur des marchés financiers. Parlez avec des chefs d'entreprise, ils sont très préoccupés. Ils disent, mais le contrôle, la gestion se concentre sur les résultats financiers, le pouvoir se déplace des mandataires sociaux vers les actionnaires, et la conception institutionnelle de l'entreprise comme une œuvre commune, à laquelle tout le monde était associé, est remplacée par une conception financière à très court terme. Là encore, les juges suivent cette évolution, toujours au nom de la compétitivité. Ils acceptent, par exemple, des licenciements autorisés par une délégation de pouvoir non mentionnée dans le statut, simple délégation informelle de pouvoir, ce qui fait que les négociations sont rendues très difficiles parce que les syndicats ne savent pas avec qui négocier, dans la mesure où on peut avoir une délégation de pouvoir informelle. Il est très difficile de discuter face aux restructurations, face aux délocalisations. Alors ça commence de façon douce par des plans de départ volontaires et ça continue par des licenciements économiques. Au fond, cette évolution, ces questions de vitesse, de dyschronie, me paraissent expliquer le paradoxe de la prospérité. Si les inégalités avancent, progressent malgré la prospérité générale, c'est que le droit du marché neutralise par avance les initiatives au niveau national pour essayer de renforcer les droits sociaux. Alors, la solution, elle est où? Elle n'est pas donnée d'avance, elle n'est pas garantie, mais elle est au moins à chercher. Et je dirais qu'il faut la chercher dans la mondialisation elle-même. Essayer de synchroniser le marché et le travail. Et peut-être y a-t-il un effet indirect de la crise économique et financière, quand on voit que la Banque mondiale en 2010 a un peu modifié ses indicateurs, a reconnu qu'il fallait faire entrer les droits de la personne. De même, effet sans doute de la crise mondiale, de la crise financière mondiale, un rapport que les institutions dans leur ensemble, c'est-à-dire l'OIT, l'OMC, la Banque mondiale, ont adressé aux dirigeants du G20 pour la réunion de l'automne, en affirmant, c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est déjà le début de quelque chose, qu'ils sont déterminés à placer l'emploi au centre de la reprise et assurer la protection sociale et les conditions du travail décent. Mais on ne peut pas s'en tenir à des recommandations, on ne peut pas s'en tenir à ces vœux pieux. En réalité, pour synchroniser le marché et le travail, je crois qu'il y a trois conditions indispensables et indissociables. La première, c'est responsabiliser les États. Responsabiliser les États, ça veut dire aller vers une judiciarisation ou juridictionnalisation, soit du droit du travail lui-même, créer le tribunal de l'OIT qui était prévu au départ et qui n'a jamais été créé, soit les droits de l'homme, créer la Cour mondiale des droits de l'homme, dont il a été tellement question et qui n'est pas encore une réalité. Mais il faut, c'est la deuxième condition, responsabiliser les entreprises transnationales. Car le pouvoir économique, il est souvent davantage au niveau des entreprises transnationales qu'au niveau des États. Alors on commence à voir utiliser le concept de responsabilité partagée, qui n'est pas mauvais, à condition que ce ne soit pas une responsabilité purement de principe, mais qu'elle soit appliquée dans le réel, appliquée dans la réalité. Et là, la question pour les multinationales, c'est de savoir qui va les juger. Qui va les juger ? Il y a une affaire qui est emblématique quand on ouvre le dossier des multinationales. C'est une affaire dont on a parlé à l'époque en France. C'était dans les faits sont anciens, c'est les années 90. Un groupe d'agriculteurs de Birmanie, de Myanmar, comme on dit maintenant, avait subi de graves atteintes aux droits de l'homme. Ça allait jusqu'à des tortures, des travaux forcés, des viols, des assassinats, au cours de la construction d'un oléoduc à l'intérieur du pays. Et ces agriculteurs ont mis en cause à la fois la société Total et la société Unocal, française et américaine. Et il y a eu pour la première fois un procès avec des résultats. En France, il y a eu une action pénale engagée contre Total pour crime de séquestration arbitraire. Finalement, le juge d'instruction a rendu un non-lieu, mais il y a eu transaction. Et Total a accepté de verser un fonds d'indemnisation aux victimes, de constituer un fonds d'indemnisation pour une somme extrêmement importante, donc a reconnu en réalité sa culpabilité, ce qui est une grande première. Et simultanément, les tribunaux américains fédéraux ont jugé Unocal en se fondant sur un vieux texte de 1789 qui était tombé en désuétude, qu'on a ranimé pour les besoins de l'affaire, qui est un texte qui rend potentiellement le juge américain juge de toutes les violations du droit international. C'est un texte qui donne compétence universelle au juge américain en cas de violation des droits de l'homme, en fait. Et on a donc appliqué ce texte, ce qui a permis de condamner la multinationale Unocal. L'affaire n'est pas terminée là, parce que pendant les années qui ont suivi, il y a eu un certain nombre de poursuites de multinationales, et le juge américain a modifié il y a moins d'un an, il y a quelques mois, sa jurisprudence. Donc, petite ouverture, mais les choses se sont refermées derrière. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je crois que la troisième condition est peut-être la plus porteuse d'avenir, c'est la mobilisation citoyenne. Le rôle des organisations non gouvernementales, le rôle des citoyens, des syndicats. Ça vous fait sourire, mais n'oubliez pas qu'un certain nombre de grandes avancées, comme par exemple la création d'une Cour pénale internationale, n'aurait jamais eu lieu sans la pression constante des organisations non gouvernementales. On a l'impression qu'elles sont faibles, mais avec de l'obstination et de la rigueur, elles obtiennent parfois des résultats. Et je crois que l'idée de citoyenneté doit être retravaillée dans la perspective de la mondialisation. On est citoyen de son pays, on le reste. On est, pour ce qui est de l'Europe, citoyen européen, c'est un concept qui figure maintenant dans les traités européens, mais on est aussi citoyen du monde. Et comme citoyen du monde, on a son mot à dire. Alors, ça me ramène à la question des migrations que j'ai à peine effleurée au début, parce que ce n'était pas tout à fait notre domaine de réflexion, mais il y a un geste symbolique qui marquerait la reconnaissance que nous sommes tous citoyens de la même communauté, ce serait de ratifier la Convention de 1990 sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. C'est une convention qui reconnaît des droits même aux travailleurs en situation irrégulière, parce que précisément ils sont citoyens de cette communauté mondiale en gestation. Or, cette convention, elle est entrée en vigueur tardivement, mais aucun pays d'immigration ne l'a encore ratifié. Et j'ai pensé au moment où il y avait tout ce mouvement, tout ce printemps arabe, j'ai pensé que ça aurait été le moment parfait pour que l'Europe fasse un geste, au lieu de renforcer la forteresse, ratifier cette convention. J'avais même écrit à la commissaire européenne en charge du dossier. Il n'y a pas eu de suite. Mais obstinons-nous et il y aura peut-être malgré tout des résultats. Alors pour conclure, je reviens à Simone Veil qui, sur le travail, est véritablement un guide pour moi. Elle disait ceci: c'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. celle qui détruit les hommes. Alors, j'entends par là que le travail met l'imagination à l'épreuve de la réalité. Il détruit l'imagination folle, mais il met l'imagination à l'épreuve de la réalité. Or, dans la réalité, il y a des instruments juridiques qui peu à peu se mettent en place à tous les niveaux, national, régional, mondial. Encore faut-il que les conditions politiques et économiques favorisent leur application dans un esprit de solidarité. C'est ça qu'il faut souhaiter. C'est un défi redoutable, presque impossible à relever, et pourtant on n'a pas le choix. Je pense que c'est la clé d'une mondialisation qui rimerait enfin avec humanisation. Merci pour votre patience.